Vous écoutez
RMC. RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Karine Galli.
On est ensemble pour l'afterfoot, évidemment, en direct des États-Unis. La Coupe du Monde, c'est chez nous que vous la vivez avec RMC Radio officielle de ce mondial du 11 juin au 19 juillet. Vous ne manquerez rien. On sera évidemment partout pour vous faire vivre ce mondial aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Maxime Chano est toujours là et c'est le grand retour de Kevin Diaz. Et tu nous as fait quoi? Une petite pause fraîcheur également comme les joueurs, c'est ça, c'est nouveau? Tu nous as fait une Colin Break avec une petite sieste, j'ai l'impression.
Non, j'ai pas fait de sieste, mais j'aurais pu.
Tu aurais pu, mais non, parce qu'il y a ce deuxième match de cette Coupe du Monde, comptant pour la première journée du Mondial. On va tout de suite retrouver Valentin Jamin, coup d'envoi donné entre la Corée du Sud et la République Tchèque.
2 minutes de jeu et 0-0 à Guadalajara, où se déroule ce match pour le moment entre la Corée et la République Tchèque. Aucune occasion, mais plutôt des ballons dans le milieu de terrain qu'on se renvoie. Là, il y a une touche assez haute pour la République Tchèque avec Pavel Sulc qui est aligné en attaque, le Lyonnais qui occupe plutôt la partie gauche. On a l'impression, en soutien de Patrick Schick, et qui est assez actif depuis le début de cette partie. On rappelle que la Tchéquie n'a plus été à la Coupe du Monde depuis 20 ans, alors que la Corée est habituée à l'équipe asiatique qui dispute son 12e mondial. Et un geste auquel on va devoir s'habituer, c'est l'arbitre Amin Mohamed, l'Égyptien, qui fait un décompte sur les touches, parce que maintenant, si au bout de 5 secondes on n'a pas joué la touche, elle est rendue, et le ballon qui est dégagé par un Tchèque directement en 6 mètres à venir pour le gardien du FC Tokyo, Kim Seong Yoo. Pour le moment 0-0, 2 minutes de jeu, et j'ai l'impression que le stade est loin d'être plein pour le moment à Guadalajara pour cette rencontre.
En tout cas, j'aime beaucoup cette règle là, justement pour éviter de perdre du temps, parce qu'en plus de ça, si tu rajoutes le cooling break et en plus de ça, si tu devais rajouter les pertes de temps du gardien de but, les joueurs qui essaient justement de gagner un peu de temps sur les touches, finalement sur 90 minutes tu vas jouer plus que la moitié. Donc je pense que c'est une bonne chose pour le football, en tout cas pour que le rythme puisse être un peu plus élevé.
C'est une des avancées de ce mondial à 48, Valentin, c'est vrai. Et on aura 2 cooling breaks, donc 1 par mi-temps. Quelle température à peu près il fait au Mexique? C'est quand même plus agréable qu'aux États-Unis, là où il fait très lourd, très chaud, très humide, j'ai l'impression.
Alors il fait peut-être effectivement un peu moins chaud que en tout cas un peu moins humide, hein. On rappelle qu'à Boston on est aux alentours de 60% d'humidité et sa prévision était à 32 degrés, donc à Guadalajara il fait un petit peu moins. Je vais laisser Maxime convertir, 70 degrés Fahrenheit, donc ici on est à 80-82. Donc c'est plus supportable pour les joueurs. On aura quand même le cooling break, mais c'est pas la même température effectivement. Et je vous confirme qu'il y a plein de sièges vides pour le moment dans le stade dans ce stade mexicain. On a eu un long dégagement là des Tchèques, alors que Minson avait essayé d'obtenir un corner, finalement il avait été sanctionné et le ballon dégagé par la Corée. Pour le moment c'est pas du grand football. Un dégagement coréen dans les bras de Kovar, le gardien du PSV, qui relance à la main vers Krejci sur son côté gauche.
C'est ce qu'il faut faire quand tu rentres comme ça dans une compétition. Justement, il faut absolument, c'est le contraste avec l'Afrique du Sud qui a essayé de jouer très tôt dans la partie, qui s'est fait contrer et qui a encaissé des buts. Voilà, c'est un début de tournoi, tu dois te mettre en confiance, et si tu dois mal jouer, en tout cas pas être très très beau d'un point de vue footballistique sur les 20-25 premières minutes, il faut le faire, parce que le plus important, je l'ai dit encore une fois, c'est de pas encaisser et surtout de rester dans son match. Je voulais juste te poser la question parce qu'on en a discuté justement, et c'était un peu la problématique des pelouses du côté États-Unis. Là, ça a l'air d'être pas mal hein, par contre, sur les écrans.
Elle a l'air bien cette pelouse. Pour l'instant, il y a pas de mode de terre, même les lignes sont parfaitement tracées, c'est assez beau à voir, et elle a l'air franchement en très très bon état. En tout cas pour le moment il n'y a pas de faux rebond et ça a l'air d'être un billard, donc les joueurs n'ont aucun souci avec ça, et les Coréens peut-être pour la première fois vont attaquer avec une touche de la droite que fait Sil Young-woo, et finalement on va repasser, même si on était un petit peu haut, dans le rond central avec la relance de Lee Hyuk sur le côté gauche. Kim Min-hye maintenant dans le rond central, le défenseur du Bayern Munich. On va aller plutôt voir sur la droite du terrain avec Lee Han-beom, mais la République Tchèque est bien en place. 5 minutes de jeu, 0-0, et là c'est la première possession, hein, messieurs, qui s'installe. On renvoyé les ballons depuis le début, un peu comme au rugby, comme si on voulait faire de la dépossession, et finalement les Coréens acceptent de garder cette balle. Les premiers ballons touchés par Kangin Lee, le Parisien qu'on va beaucoup attendre, et là qui est quasiment comme un numéro 6 et qui continue avec ses coéquipiers sous les hollés du public de faire tourner le ballon, même si on va revenir jusqu'au gardien qui va contrôler avant d'aller chercher sur la gauche. 6 minutes de jeu, 0-0, les Olé, on les entend bien, et la première possession coréenne.
Corée du Sud, République Tchèque, on rappelle, c'est le premier match pour ces deux nations, comptant pour la première journée de compétition. Kevin, on t'a pas entendu sur ce match, on en a parlé juste avant avec les garçons, ils trouvaient qu'il n'y avait pas forcément de nation favorite. Est-ce que pour toi, tu penses que la Corée du Sud ou la République Tchèque devraient prendre l'avantage dans ce match, ou c'est plutôt équilibré?
Moi, j'ai quand même un favori qui est la République Tchèque, après qui est la Corée du Sud, pardon, contre la République Tchèque.
Il faut se réveiller, Kevin.
Je connais moins la République Tchèque que la Corée du Sud. En tout cas, j'aime beaucoup l'attaque de la Corée du Sud, forcément. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien toujours ces deux équipes asiatiques. J'en parlais tout à l'heure, que sont le Japon et la Corée du Sud, qui pour moi montrent depuis la Coupe du Monde 2002 que c'est des nations vraiment émergentes, des nations qui travaillent très très bien, qui sont des joueurs très techniques, qui mettent beaucoup d'intensité, avec un football très moderne. Moi, j'aime beaucoup.
Avec des joueurs évidemment majeurs qui jouent dans les plus grands clubs. On le rappelle, Son a été très longtemps un joueur de Tottenham. Il est aujourd'hui à Los Angeles. Il y a Lee, le Parisien. Il y a Kim derrière au Bayern Munich. Ouais,
et pour revenir par rapport à ce qu'a dit Kevin, c'est vrai que c'est une équipe nationale qui a très très bien évolué, hein, la Corée du Sud. Et par rapport aux joueurs, moi j'étais impressionné par justement le rythme que mettait Heung-min Son à l'entraînement. Tu vois, je pense que c'est aussi la mentalité sud-coréenne. Mais c'est vrai que c'est bien. Tu te rends compte finalement que les petites nations, vraiment, bah, le niveau c'est vraiment réduit entre les grandes nations. Et quand tu vois aujourd'hui la Corée du Sud et individuellement ou même intrinsèquement, tu regardes les individualités, tu te dis quand même bon, bah, écoute, c'est une équipe qui mérite d'être là. Maintenant, on va voir ce que ça va donner sur les premiers matchs. On l'a dit, le match d'ouverture, en tout cas, le premier match lors d'une compétition est très très importante pour les deux équipes, que ça soit pour la Corée du Sud, mais aussi pour la République Tchèque. Et c'est vrai que quand on voit aujourd'hui le pressing là sur les 10 premières minutes, on se rend compte quand même que les deux nations veulent vraiment pas. Veulent vraiment pas laisser d'espace entre les lignes. On sent vraiment deux équipes et deux blocs bien organisés.
La compétition a commencé aujourd'hui, vous le savez, avec le lancement de la Coupe du Monde. Le Mexique a gagné 2-0 face à l'Afrique du Sud, et le deuxième match du groupe A vient de débuter avec Valentin Jamin entre la Corée du Sud et la République Tchèque. Messieurs, on va se tourner vers la suite de la compétition. Demain, ça sera le deuxième jour de match avec l'entrée en liste des deux autres équipes qui accueillent ce mondial, le Canada et les USA. Les USA, c'est évidemment le pays où il y a le plus de matchs organisés pour cette Coupe du Monde 2026. On va se tourner vers les États-Unis, Maxime. C'est vrai que les États-Unis sont attendus parce qu'il y a des joueurs très connus, notamment qui jouent en Europe et même en Ligue 1. Ce USA Paraguay, est-ce que tu... Alors tu me fais une grimace déjà.
Non, c'est toujours très compliqué.
Bah. C'est vrai que Pochettino est quand même beaucoup critiqué. C'est l'entraîneur des États-Unis. On fait que de dire qu'a priori, il prend son chèque et après le mondial, il va quitter la sélection. Il y a eu ce match amical face à l'Allemagne qui a été perdu 2-1. C'était à Chicago. Donc pour toi, ils sont pas bien préparés pour cette entrée dans leur mondial?
Écoute, là j'ai un gros point d'interrogation sur l'équipe nationale américaine. Si tu veux être mon avis très franc, Karine, je pense qu'ils étaient plus armés il y a 4 ans qu'aujourd'hui. Alors pourquoi? Il y a plusieurs facteurs à prendre en considération, mais c'est vrai qu'il y a énormément d'attentes sur cette équipe américaine. Déjà parce qu'évidemment la compétition est sur leur sol. Ça c'est une première chose. De deux, tu l'as très justement dit, t'as des joueurs qui arrivent à maturité. Je pense à Pulisic, je pense à McKennie, le joueur de la Juventus de Turin. Et puis surtout, tu es censé avoir un super coach, un grand coach, Pochettino, qui a l'expérience de l'Europe et notamment, par exemple, du côté de Tottenham. Mais c'est vrai que quand je regarde leur match amicaux et le dernier contre l'Allemagne, quand tu regardes justement un petit peu leur bilan, tu te rends compte que les Américains sont incapables de pouvoir battre les grandes nations. Ils ont perdu contre la Belgique, ils ont perdu aujourd'hui contre l'Allemagne. Ça devient très très compliqué quand tu veux faire un bon parcours dans une compétition comme la Coupe du Monde. On sait à quel point c'est une compétition qui est relevée d'un point de vue de niveau. Si tu es pas en mesure en match amical de pouvoir battre les grosses nations, je me dis que c'est un petit peu compliqué. Donc pour revenir justement d'un point de vue footballistique sur cette équipe, devant ça fonctionne très très bien. Tu l'as dit, avec un Balogun qu'on connaît du côté de la Ligue 1 de Monaco, qui a fait une très très belle saison, un Pulisic qui est un petit peu notre golden boy ici aux États-Unis, un petit peu à l'instar d'un Kylian Mbappé. Un McKennie, comme je t'ai dit, qui fonctionne très très bien du côté de la Juventus de Turin. Timothy Weah, qu'on connaît bien aussi du côté de l'Olympique de Marseille. Même un Tyler Adams qui fonctionne en première ligue. La grosse incertitude qu'on a du côté des États-Unis, c'est vraiment cette défense qui est vieillissante. Et pour te dire à quel point la défense est vieillissante, on a même Tim Raheem qui a 39 ans, l'ancien joueur de Fulham qui aujourd'hui est à Charlotte en MLS, qui est d'ailleurs le capitaine de cette équipe. Et quand tu te rends compte qu'un joueur de 39, presque 40 ans se retrouve retrouve à jouer titulaire dans une équipe qui est censée faire une belle Coupe du Monde. Je me questionne quand même sur le fait que je pense que les Américains sont pas forcément armés aujourd'hui pour pouvoir prétendre à quoi que ce soit, en tout cas dans cette compétition.
C'était une surprise de pas avoir Tesman ou pas?
C'était pas forcément une surprise, et même du côté de Lyon, hein, quand tu regardes, c'est vrai que c'était très surprenant de le voir se faire cette saison. Je pense que très peu l'attendaient. Il y a beaucoup de joueurs qui ont été laissés sur le côté, notamment James Sands aussi, qui joue en Allemagne. C'était la même chose avec Tesman. Je pense qu'aujourd'hui, les Américains ont un milieu de terrain bien fourni. Surprise, oui et non. Comme je te dis, la grosse problématique qu'ont les Américains aujourd'hui, c'est vraiment le vivier défensif. C'est vraiment le manque criant de qualité en tant que défenseurs centraux, d'ailleurs, notamment. Mais c'est vrai que de ne pas voir Tesman aujourd'hui dans cette équipe, après les noms que j'ai cités, non, c'est pas forcément une surprise, Kevin.
On rappelle qu'il y a des problèmes, évidemment, de gardien, parce qu'il n'y a pas vraiment de gardien numéro 1 qui se dessine.
Maintenant, c'est ça. D'ailleurs, c'est mon ancien coéquipier du côté de New York, Matt Fries.
Il était même en chambre avec
exactement,
lui.
Exactement, ouais, qui avait la particularité de manger des chicken tenders, excuse-moi pour la traduction, à 2h ou 3h du matin. Donc c'était pas forcément très très professionnel, mais tu vois, ça l'a emmené jusqu'à une place de titulaire en équipe nationale, et qui risque d'ailleurs de faire le grand saut derrière en Europe, parce que c'est vraiment un gardien plein de qualité. Mais c'est vrai que pendant longtemps, Pochettino a cherché un petit peu son numéro 1, mais je pense qu'il l'a trouvé avec Matt Fries.
Et des soucis notamment en défense. On l'a dit, ce mondial se joue évidemment dans 3 pays. On a eu la cérémonie d'ouverture au Mexique. Place maintenant à Los Angeles, où on va retrouver Nicolas Pelletier, notre envoyé spécial. Salut Nico.
Salut les amis, salut à tous.
Ça y est, les États-Unis se préparent pour leur Coupe du Monde, parce qu'elle va vraiment commencer pour eux avec ce match entre les USA et le Paraguay. Le match va avoir lieu donc à Los Angeles. Dis-nous tout sur cette deuxième cérémonie d'ouverture.
Alors c'est une cérémonie qui normalement ne sera pas pareille que celle qu'on a pu voir hier, du côté de Mexico. C'est une cérémonie qui va durer 13 minutes au total, une cérémonie d'ouverture qui... Du côté de la FIFA, on promet un show à l'américaine, notamment avec l'apparition de Katy Perry, qui va venir interpréter l'un des titres du mondial sur la scène de ce SoFi Stadium. D'ailleurs, il ne faut pas l'appeler le SoFi Stadium, il faut l'appeler le Stade de Los Angeles, parce qu'autrement,
on tape sur les doigts.
Parce que exactement, le SoFi Stadium, ce n'est pas un partenaire de la FIFA. Donc voilà, on va avoir notamment Katy Perry, qui aurait pu peut-être aller faire la cérémonie d'ouverture du côté du Canada, vu sa relation avec l'ancien Premier ministre canadien, mais bon, elle est du côté de Los Angeles. On aura aussi Anita qui viendra interpréter l'un des titres du mondial, parce que vous savez, la FIFA maintenant a même un FIFA Sound, c'est-à-dire que ils produisent des titres pour la Coupe du Monde. Et puis peut-être que autour de la table vous connaissez, moi je ne connaissais pas, c'est un groupe de country qui va venir interpréter l'hymne national américain, parce que ça sera un moment très important pour ce premier match sur le sol américain. C'est Dan plus Shy, peut-être que Max connaît autour de la table, mais moi je ne connaissais pas. Donc
je suis pas un grand fan de country, mais écoute, je vais m'y mettre. Je connais pas.
Pourquoi ils ont pas pris Taylor Swift? Elle faisait de la country avant.
Ah, mais il faut leur poser la question, Karine. Oui, en effet. Ouais.
Elle faisait pas de la country au début? Non, Nico, ouais, t'as pas l'air au taquet là.
Non, je n'étais pas sûr.
Il en faut pour tout le monde, c'est bien, au moins, il varie un peu les goûts.
Exactement, c'est exactement cela qu'on nous a répété lorsqu'on nous a expliqué cette cérémonie d'ouverture. Et puis, c'est un match qui va se dérouler. Alors, on a vu au Mexique, il y avait une ferveur impressionnante. C'est un match qui va se dérouler pour le moment. Il n'est pas guichet fermé. Pour le moment, il y a encore des places qui sont en vente pour ce premier match sur le sol américain. Et puis, ça sera un match sans Donald Trump.
Sur l'appli RMC. Karine Galli.
On est à nouveau à l'antenne. On a eu un petit problème technique. Vous le savez, on est en direct des États-Unis pour vous faire vivre ce mondial 2026 en direct des États-Unis de New York. On est avec vous jusqu'à 5 heures du matin. Vous qui vous le levez peut-être avec nous. On était en train de parler donc des États-Unis et du prix des places, parce que c'est vrai que Nico Pelletier qui est avec nous nous disait USA Paraguay. Il y a une cérémonie d'ouverture. Il y a des stars mondiales, Katy Perry, mais il y a un stade qui n'est pas à guichet fermé. Ça, c'est quand même un couac dans une organisation d'un mondial.
Mais on l'a dit un peu plus tôt, Karine, ça s'expliquerait peut-être aussi par le prix des tickets. Hein. Aujourd'hui, il faut prendre en considération que c'est énormément d'argent de venir aux États-Unis pour déjà voir la Coupe du Monde. Donc, tu as déjà les transports qui te coûtent de l'argent, tu as l'hôtellerie qui te coûte aussi beaucoup d'argent. Hein. Tu sais qu'aux États-Unis, à New York ou à Los Angeles, les prix des hôtels sont quand même assez élevés. Si en plus de ça, tu rajoutes le prix des tickets, ben, pour le commun des mortels, ça devient tout de suite très cher.
Oui, c'est sûr. Et puis,
mais Max, on est quand même dans une ville qui aime bien le soccer. Enfin, je parle sous ton contrôle.
Il y a deux clubs.
Dans une ville qui est peut-être passionnée, la plus passionnée pour le soccer aux États-Unis.
Alors, je serais surpris de savoir, j'ai déjà ma réponse à la question, c'est-à-dire que si jamais le Mexique était venu jouer, par exemple, à Los Angeles, je suis convaincu, par exemple, que le stade aurait été rempli. Si la Corée du Sud venait à jouer à Los Angeles, je suis convaincu aussi que le stade serait rempli. Est-ce que finalement, il n'y a pas un désintérêt? Il y a une grosse diaspora là. Le premier match de Jung Min-sun, quand il arrive à Los Angeles FC, ils ont vendu 35 000 tickets uniquement des Coréens, des Sud-Coréens, ce qui était assez surprenant. Enfin, tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, je sais pas s'il n'y a pas un désintérêt de l'équipe nationale américaine. Je pense que ça, j'ai envie d'être un peu prudent par rapport à cette analyse. Une chose est sûre, c'est que niveau Paraguay, je pense qu'il y a évidemment peut-être un peu moins de Paraguayens du côté de Los Angeles. Je serais curieux aussi de savoir si jamais les États-Unis devaient bien commencer leur compétition en gagnant un ou deux matchs, si un petit peu l'ambiance générale dans le pays changerait un petit peu, parce que c'est vrai que nous ici, on est à New York et on parle un peu plus quand même des Knicks actuellement, de la NBA, plutôt que de l'équipe nationale américaine. Donc attendons de voir ce que ça va donner. Une chose est sûre, c'est que les Américains, ils ont entre guillemets le ballon entre leurs pieds et voilà, ils ont juste à gagner pour essayer de prendre le public avec eux.
C'est ce que m'expliquait d'ailleurs un journaliste qui suit la Team USA au quotidien. Il me disait, en ce moment, c'est pas le moment de parler du soccer ici aux États-Unis. On parle de la NBA. Il y a plein d'autres finales nationales qui se déroulent en ce moment même et qui sont diffusées à la télé au grand public. Et c'est beaucoup plus important pour les Américains en ce moment. Peut-être que derrière ces finales, on s'intéressera à cette Coupe du Monde, mais c'est pas trop le moment niveau sport de s'intéresser au soccer pour le moment.
Kevin, c'est quand même dingue en fait de se dire, on a plein d'excuses pour expliquer qu'en fait les États-Unis, qui, on le rappelle, ont le plus grand nombre de matchs dans cette Coupe du Monde, ne s'intéressent pas pour l'instant à leur mondial, alors qu'ils l'ont voulu. Hein.
Non mais je le disais un peu plus tôt, faut savoir quand même que les États-Unis c'est pas un pays de compétition internationale pour les sports collectifs. Aujourd'hui le football américain, ça n'a lieu qu'aux États-Unis. Le basket, pour eux, il n'existe que le basket en NBA. L'Euroleague, c'est à peine s'ils regardent. C'est pareil pour le hockey, il y a que la NHL qui compte. Et donc les compétitions internationales, ils ont ce patriotisme, mais je suis pas sûr que pour eux ce soit vraiment ce qu'il est. C'est quand même un football plus de franchises que des franchises d'ailleurs qui, pour les non initiés, peuvent carrément changer de ville. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des franchises qui peuvent changer de région, changer de département, quoi. Et c'est quand même très très particulier. C'est un sport de franchise, mais c'est pas un sport de pays, en tout cas le football ou les grands sports américains.
Et pour appuyer l'analyse de Kevin, Karine, c'est intéressant parce que alors tout ce qui est baseball et basketball, quand ils gagnent donc la NBA ou même la MLB, ils sont considérés comme champions du monde, alors qu'ils ont uniquement finalement gagné le championnat américain. Mais tu vois, c'est pour te dire comme quoi les Américains sont tellement
focus
sur
les États-Unis.
Exactement, sur leur championnat. Alors après, c'est vrai que la Coupe du Monde appartient aussi à tout le monde. Il y a énormément de pays, on l'a dit, 48 équipes, donc 48 nations.
Donc, non, mais c'est pas un sport de foot. Aujourd'hui,
pas un pays de foot.
C'est pas un pays de foot. Après, aujourd'hui, c'est un pays de foot pour les latino-américains.
Il y a de ça aussi. Pense que dû aussi à l'immigration en effet qu'on connaît aux États-Unis. Après, quand tu regardes aussi les féminins, l'équipe féminine américaine qui fonctionne bien. Enfin, là, on parle quand même. Enfin, je suis en train de regarder les images. On n'a pas un stade qui est à moitié vide quand même. Hein. Après, il y a aussi une chose à prendre en considération, messieurs dames. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Américains, quand ils viennent voir un match, ils viennent voir un spectacle. Le spectacle est très large. C'est-à-dire que ça passe par aller chercher ta bière et ton hot dog au stade, puis aller voir le match. Moi, ça m'était pas rare quand je jouais à New York ou à Los Angeles, un peu moins à Los Angeles, mais surtout à New York, où sur les 20 premières minutes, il y avait personne au stade et en fait tout le monde était dans les couloirs pour aller attendre leur bière et après 20 minutes, tout le monde sortait. Donc voilà, il faut voir par rapport à l'affluence. Évidemment, après il y a le nombre de tickets vendus. Hein. Je pense que ça, tu peux pas tricher par rapport à ça. Mais
alors de dire au Yankee Stadium.
J'ai joué au Yankee Stadium,
avec les New York City.
Ouais, pas facile, hein. Un terrain de foot dans terrain de baseball. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a perdu, je crois, qu'un match en 10 ans. Parce que toutes les équipes qui arrivaient là, elles étaient complètement perdues. Parce qu'en plus, le terrain était beaucoup plus petit. Je crois qu'on avait un terrain de 10 mètres plus petit que les autres terrains. Ouais, c'était un peu compliqué. On avait eu une dérogation de la part de la Ligue qui était censée durer 2 ans et qui finalement a duré 10 ans.
Et qui dure toujours parce qu'il est en construction, le stade.
Normalement,
toujours pas
fini. Je pense que la saison prochaine ou dans 2 saisons. Ouais,
mais là, ils jouent où, New York City?
Toujours au Yankee Stadium. Ouais.
Mais ils mettent de la pelouse quand même.
Ouais, ouais. Alors au-dessus de la terre battue. Alors des fois, t'as un peu le terrain qui est pas très droit.
Ouais, c'est ouf ça.
Mais le stade, même
j'ai
si
déjà
c'était
été voir
ton
un match,
équipe ennemie des Red Bull,
déjà
très
été
bien.
Voir un match de New York City au Yankee Stadium. Peut-être que tu jouais. Faut que je regarde.
Bien sûr, hein. Regarde.
Dans quelle année?
Regarde celui qui avait le brassard et qui a sûrement un marqué.
Okay,
au début,
j'ai une photo. Je vais regarder ça.
Mais tu te souviens pas de l'année?
Kevin vient tellement aux États-Unis qu'il se souvient plus. C'est trop fréquent pour lui.
2018, je crois.
Ah ouais, j'étais là.
En revanche, pour vous compléter un peu le portrait de Los Angeles, je pense que demain, niveau télé, c'est-à-dire dans la nuit de samedi à dimanche, pardon pour vous, je suis un peu perturbé. Dans la nuit de vendredi à samedi, on va y arriver. Ce match entre les USA et le Paraguay. En revanche, je pense que tout le monde sera impressionné par le stade de Los Angeles. C'est l'un des plus beaux stades de cette compétition. 70 000 personnes, s'il est plein, peuvent assister à cette rencontre. Et c'est peut-être, je suis rentré là-dedans tout à l'heure, c'est exceptionnel de voir ça. Et il faut penser à cela. Lorsque vous regarderez peut-être le match demain soir, il faut penser qu'en 2028, il y aura la natation dans ce stade aux Jeux Olympiques et ça s'annonce aussi exceptionnel de vivre ce moment-là.
Et c'est aussi la raison d'ailleurs pourquoi les États-Unis ont tant de matchs sur leur sol. On se posait la question pourquoi c'est presque, enfin, il y a très peu de matchs finalement au Canada et au Mexique. C'est parce que les infrastructures américaines sont juste exceptionnelles. Là, t'as parlé de ce stade-là, mais ça va être la même chose à Foxborough du côté de Boston. C'est la même chose ici à New York du côté du MetLife. Enfin, aujourd'hui, les Américains, même si évidemment ils ont beaucoup de retard d'un point de vue footballistique et à proprement parler, mais c'est vrai que niveau infrastructure, et ils bénéficient justement de l'attrait du football américain, c'est-à-dire de pouvoir bénéficier des stades du football américain. Mais c'est vrai que quand tu regardes les stades à proprement parler, on a beaucoup de chance aux États-Unis pour cette Coupe du Monde.
Merci beaucoup, Nico.
On a été dur ces derniers jours, mais il faut quand même signaler, et Max l'a dit tout à l'heure, avec la communauté mexicaine ici à Los Angeles, on a quand même vécu une très très belle journée dans la fan zone de Los Angeles. Elle était remplie et là, on a vraiment passé une journée Coupe du Monde niveau ambiance. Donc, c'était vraiment sympa de vivre ce moment.
Et on espère que demain, donc, ça sera plein pour cette deuxième cérémonie d'ouverture et l'entrée en lice des USA, Paraguay. On suivra ça, évidemment, sur RMC également en direct. Belle nuit à toi, Nico. Merci beaucoup.
Ciao, bonne soirée, les amis.
Bonne soirée à toi. Salut. On va tout de suite retourner au Mexique. Vous le savez, il y a donc ce deuxième match de la compétition entre la Corée du Sud et la Tchéquie. On est avec Valentin Jamin. Valentin, première poste fraîcheur pour les deux nations. Est-ce qu'il y en a une qui a pris l'ascendant ou pas?
Alors plutôt la Corée qui au moment où on s'est quitté autour de la 10e minute de jeu a appuyé, a accéléré, une lourde frappe notamment de Kangin Lee à l'entrée de la surface repoussée sur sa gauche par Kovar. Juste avant, il y a eu un bon appel en profondeur du joueur de Mayence, Lee Yae-sung, qui avait remis en retrait pour Heung-min Son qui a tiré au-dessus, l'ancien joueur de Tottenham. Une tête également sur corner du défenseur Lee Man-beun. Donc ils ont poussé les Coréens sans marquer, et puis depuis quelques minutes la République tchèque est remontée un petit peu, notamment avec un corner il y a quelques instants de la droite vers la gauche, et Souček qui a piqué au premier poteau le joueur de West Ham, mais qui n'a pas réussi vraiment à frapper. Donc petit avantage, on va dire, au point pour la Corée, qui techniquement est un peu supérieure. Les Coréens qui veulent évidemment sortir de la poule, tout comme la Tchéquie, poule ouverte on l'a dit, mais les Coréens avec leur expérience, eh bien, pourraient viser peut-être comme lors du dernier mondial 2022, à 8e de finale, ils s'étaient fait éliminer par le Brésil. 25e minute de jeu, c'est la fin de la cooling break, mais là on a vu aussi coaching break, puisque le sélectionneur coréen a replacé certains joueurs, a fait quelques ajustements, et l'ambiance est en train peut-être de monter petit à petit, parce qu'on entend beaucoup les Coréens sur les phases de possession crier, chanter pour leur équipe. Il y aura un coup franc assez lointain pour la Corée à cette reprise de jeu au milieu de terrain. Wang In-beom au ballon, on est à 35-40 mètres, légèrement décalé côté droit, il a été joué court, on va aller voir sur le côté droit complètement justement avec Lee In-beom. Le petit ballon par-dessus, c'est bien joué dans le couloir pour Seong Bin qui centre, récupéré premier poteau par un Tchèque, et Pavel Souch qui va réussir à contrôler le ballon devant sa surface et même à gagner une faute. Il va la jouer rapidement, un long ballon dans le couloir gauche qui finalement ne va pas trouver preneur, et même je ne sais même pas si on ne va pas rejouer le coup franc, puisqu'Amin Mohamed, l'arbitre égyptien de cette rencontre, fait signe. Il y avait un jeu sur le petit ballon tout à l'heure coréen sur le côté droit de l'attaque. Toujours 0-0, donc 27e minute de jeu dans cette partie, et on va changer le maillot de Pavel Souch puisqu'il s'est fait accrocher.
Complètement été déchiqueté. Ouais.
L'équipementier avait déjà eu des petits problèmes. Je me rappelle sur des compétitions, lorsqu'on tirait.
Un problème de maillot là.
Il a
à peine été accroché par un adversaire, et on dirait qu'il s'est fait attaquer par un requin, quoi.
Petit tirage de maillot, et Pavel Souch, il est peut-être habitué parce qu'on sait qu'il est très proche de son chat à Lyon, donc peut-être qu'il a déjà eu ce type de problème.
Le chat n'est pas aussi dangereux.
Il est plus sympa, ouais, t'as raison. Donc on va changer de maillot pour la Tchéquie.
Pour revenir sur ce match-là et la tactique de la République tchèque, ça a c'est surprenant de la manière dont ils se positionnent. Ils sont quand même assez bas. Hein. On sent vraiment deux équipes frileuses. Hein. Bon, les Sud-Coréens ont tendance à un petit peu plus presser, mais c'est vrai que les hommes de Quebec, là, moi, je suis assez surpris, moi, de commencer cette compétition comme ça. Je sais que c'est le premier match. Il faut y aller à 200%. Alors, il faut être prudent. Je l'ai dit,
c'est pas une équipe très entreprenante. Hein, mais c'est vrai que c'est surtout les Coréens qui sont quand même. Ils défendent en avançant. Ils sont proactifs avec le ballon. Ça va vite vers l'avant. On l'avait dit, mais c'est une bonne équipe.
T'as parlé de Miroslav Kubek, juste oui, Maxime, qui bat un record, hein, qui devient le plus vieux sélectionneur à officier en Coupe du Monde. 74 ans et 283 jours. Il bat Hugo Broos, qui cet après-midi a déjà battu le record avec l'Afrique du Sud. Il va être battu par le sélectionneur de Curaçao qui a 78 ans. Donc, faut qu'il en profite ce soir.
Ouais. Miroslav Kubek.
Ben, 0-0, 27e.
On parle justement de la jeunesse au pouvoir, mais comme quoi, tu vois, Karine, l'expérience, hein, ça remplace.
Moi, je suis pas pour le jeunisme.
Irremplaçable.
Moi, j'adore l'expérience. Il y a aucun problème. Écoute, moi, je trouve que par exemple Mourinho qui revient, tu vois, alors qu'il est à la soixantaine, c'est magnifique au Real. On est ensemble sur RMC.
Ça marchera pas, mais c'est magnifique.
Bah oui, mais ça me plaît. Il faut laisser la chance au produit quand même, Kevin. Tu voulais mettre qui?
Bah en tout cas sûrement pas un gars qui est cramé depuis 10 ans, mais bon, pas
trop. Oh là là, tout de suite, quelle horreur d'entendre ça, cramé depuis 10 ans. Je te rappelle qu'il a fait gagner notamment une Coupe d'Europe à la Roma, et ils étaient heureux, non?
C'est énorme, c'est énorme.
Eh bah oui, la Roma attendait ça, et le peuple romain était heureux.
Il a été au Benfica, il a piteusement échoué.
Ça a été plus compliqué au Benfica, effectivement. On rappelle donc qu'aujourd'hui, c'est officialisé le retour de José Mourinho sur le banc madrilène. Dans quelques instants, on continue évidemment en direct de New York. On vous fait vivre cette première journée de Coupe du Monde sur RMC. Vous avez débuté cette journée avec le Mexique, Afrique du Sud, les Mexicains qui ont gagné 2-0. Et actuellement, c'est le deuxième match de ce mondial que vous suivez avec nous. Corée du Sud, Tchéquie, pas de but. On est ensemble jusqu'à 5h du mat en direct. On vous attend au 32-16 sur RMC. A tout de suite.
Radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
RMC.fr et appli RMC.
RMC en direct, partout, tout le temps.
RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Karine Galli.
On est ensemble sur RMC en direct jusqu'à 5h du matin. On vous accompagne pour ceux qui se lèvent pour aller au travail ou pour ceux qui peut-être rentrent de soirée. On est avec vous pour vous faire vivre cette première journée de la Coupe du Monde 2026. Vous le savez, RMC, radio officielle du Mondial au Mexique, au Canada et aux États-Unis. À mes côtés, Kevin Diaz et Maxime Chanon. On vit actuellement le match entre la Corée du Sud et la Tchéquie. 0-0 après 30 minutes de jeu. Le Mexique a gagné 2-0 face à l'Afrique du Sud. C'était le premier match du mondial et demain il y aura la suite évidemment, Canada, Bosnie et USA, Paraguay, les deux autres pays organisateurs qui vont donc commencer leur compétition. On va parler de l'équipe de France, qui vise une troisième étoile, la dernière compétition de Didier Deschamps, et des Bleus qui sont attendus avec un rendez-vous ô combien important, mais aussi un rendez-vous relevé. Ça sera face au Sénégal le 16 juin à quelques mètres d'ici au stadium magnifique du New Jersey. Comment il s'appelle?
Le MetLife
Stadium, absolument.
Je sais pas si on a le droit de le nommer en fait.
Finalement. Ben non, ouais, parce qu'on n'a pas le droit. Donc le stade du New Jersey et les Bleus qui sont très attendus. Et on espère surtout ne pas vivre un remake de 2002 où les Bleus étaient champions du monde en titre et ils avaient été battus par les Sénégalais 1-0. Kevin, je me tourne vers toi avec un avis tranché.
Il y a un moment, les générations, moi j'en ai rien à faire.
Kevin, les Bleus qui sont attendus, ça sera mardi, on le rappelle, avec ce match très important entre la France et le Sénégal, et un adversaire qui est peut-être, a priori, le plus relevé, parce que le Sénégal, c'est meilleur que la Norvège, on est d'accord?
Je sais pas si c'est meilleur que la Norvège, en tout cas, c'est deux belles équipes dans le groupe de la France. Et moi, mon avis, c'est de dire que je pense qu'il va falloir commencer fort. Il va pas falloir monter en puissance, hein, comme on dit des fois dans certaines compétitions. Moi, je pense que l'équipe de France, elle a des certitudes, mais il faut qu'elle rassure, il faut qu'elle se rassure, notamment sur bien sûr l'opposition de Kylian Mbappé, l'influence ou pas de Ousmane Dembélé, la défense, le milieu de terrain. Est-ce qu'ils vont réussir à prendre l'eau, les quatre attaquants, pas les quatre attaquants. Moi, je pense que c'est une équipe qui certes a de grandes qualités, mais qui va devoir commencer fort et frapper un grand coup dès ce premier match. Parce que s'ils sont accrochés, je pense que derrière ça peut douter, il peut y avoir quelques petites tensions et je suis quasiment certain que derrière, si tu bats pas le Sénégal, je pense que ça va être beaucoup plus difficile. Autant je te dis, même s'il y a les trois premiers qui devraient être qualifiés, moi je pense qu'il faut vraiment quasiment faire un 9 sur 9 pour se rassurer et prendre l'autoroute vers la finale. Je sais pas s'ils iront la gagner, mais en tout cas vers le dernier carré.
Les trois matchs, on rappelle, hein, juste, c'est Sénégal, évidemment, le 16 juin. Puis il y aura Irak, c'est évidemment l'adversaire le plus faible de ce groupe. Et enfin, la Norvège, ça sera le 26 juin. Donc voilà le programme pour cette phase de groupe des Français, avec l'objectif, tu l'as dit, au moins de gagner déjà les deux premiers pour potentiellement faire un petit peu tourner sur le troisième, mais si possible, de faire un 3 sur 3.
L'Irak, attention, hein, on a vu qu'ils avaient accroché l'Espagne. Comme quoi,
on va dire attention avec toutes les équipes.
Ben oui, parce qu'aujourd'hui, je t'ai dit, les petites équipes ont vachement évolué. On le voit sur certains résultats. Alors même si c'était bien évidemment qu'un match amical et que l'Espagne avait fait tourner. Moi, je suis pas forcément d'accord de dire que le Sénégal est beaucoup plus forte que la Norvège. Quand tu vois ce que les qualifications pour la Coupe du Monde des Norvégiens, honnêtement, ça impose le respect. Là où finalement, je me pose un petit peu aussi la question, c'est de savoir comment la France va réagir. Finalement, c'est peut-être un mal pour un bien, hein, que la France ait perdu contre cette Côte d'Ivoire, parce qu'on sait que contre le Sénégal, les Français vont plutôt avoir une équipe comme on a vu contre les Ivoiriens, c'est-à-dire une équipe qui vont sûrement attendre les Français, qui vont essayer de les contrer et d'utiliser un petit peu la vitesse des attaquants sénégalais. Kevin l'a très justement dit, je pense que de commencer avec une victoire, c'est très très important dans ce tournoi-là, et surtout parce qu'aujourd'hui moi je mets un petit peu en doute la mentalité des Français, si jamais en tout cas la France devait perdre. Il y a beaucoup quand même de points d'interrogation, l'utilisation de Kylian Mbappé, le vrai poste finalement de Mikel Olysee, qui on le sait est quand même beaucoup plus performant à droite que dans l'axe, où met Ousmane Dembélé. Donc là pour l'instant ça va, parce que sur les matchs amicaux du mois de mars, la France a été attractive et compétitive, et donc on en a tiré beaucoup de bonnes choses. Mais c'est vrai que sur les deux derniers matchs, et notamment le match contre la Côte d'Ivoire, on commence un petit peu à remettre tout en cause dès que les résultats ne suivent pas. Donc voilà, il est important pour les Français de pouvoir gagner ce match-là de manière à être mentalement être prêt, et surtout éviter des débats qui, je pense, n'ont pas lieu d'être dans une compétition qui, on le sait, est quand même assez rapide sur d'un point de vue temps, hein, ça va très très rapide jusqu'à la finale.
Messieurs, on accueille tout de suite Florent Germain en direct de Boston. C'est l'un évidemment des suiveurs de l'équipe de France. Salut Flo.
Salut Karine. Salut Kevin et salut Maxime.
Salut Flo.
Salut Flo.
Flo, tu étais notamment aujourd'hui donc au Bentley University. C'est le camp d'entraînement des Bleus. Est-ce qu'on serait pas un petit peu trop pessimiste, inquiet, toi qui connais les Bleus parfaitement, qui les suit au quotidien, qui connais évidemment Didier Deschamps et Guy Stéphane comme ta poche? Je trouve qu'on est un petit peu vraiment sur la pointe des pieds.
Écoute, il est temps que la compétition commence, je pense, et on retrouve ça dans beaucoup de grandes compétitions, j'ai le sentiment. Tant que ça commence pas, on est plus dans les préoccupations, dans les questions, on se fait un peu des films, et au final, je pense que les joueurs aussi ont hâte que ça démarre. J'ai en tête la petite phrase de Didier Deschamps qui regrettait l'intensité un peu moyenne du début de rencontre contre l'Irlande du Nord, où il a eu le sentiment que les joueurs étaient un petit peu en gestion. Voilà, on commençait le match tranquille et il a eu cette petite phrase en disant bon, ce sera tout autre chose le 16 juin, parce que ils ont envie d'y être dans cette Coupe du Monde. Et je crois que leur arrivée hier à Boston, l'engouement aujourd'hui, le fait de découvrir le camp de base, ça les a mis vraiment dans leur Coupe du Monde, et ils ont envie de éventuellement chasser ces quelques doutes qui sont nés peut-être des matchs amicaux, peut-être du fait que avec ce quatuor offensif il y en a toujours un qui est peut-être moins éblouissant que les trois autres. Donc on parle de Dembélé, on parle de Doué ou Barcola, on va parler du positionnement d'Olysee, mais au final c'est vrai que quand on regarde cette équipe-là et l'équipe de France elle-même, et ça c'est le principal, on est consciente, ils peuvent faire très très mal, donc ils ont envie de le démontrer. Et effectivement, je pense que si dans le staff ou dans l'équipe ils entendent les critiques, les doutes de ce début de compétition, ou en tout cas avant justement qu'ils entrent en lice, je pense qu'ils auraient de quoi avoir envie de prouver justement qu'ils sont vraiment candidats et qu'il ne faut pas trop s'inquiéter.
Après, on connaît hein, l'équipe de France et on connaît un peu les médias français, même l'opinion publique, on a tendance à être très exigeant justement avec nos Bleus. Après, il y a une réalité aussi, c'est qu'il y a tellement de très bons joueurs dans cette équipe de France qu'on a envie de les voir performer. Donc le premier match va être très très important pour voir un petit peu où s'en sont tous les joueurs. Et moi, c'est vraiment l'aspect mental que j'ai envie de voir, la manière dont les joueurs vont travailler pour l'équipe. Évidemment, je vais pas mettre Kylian Mbappé sur le sujet, parce qu'on en a assez discuté par rapport à ses replis défensifs. Mais c'est vrai que quand on a connu Didier Deschamps, qui avait quand même un effectif et qui avait vraiment une tactique huilée, là il se met presque en danger finalement, en changeant complètement sa tactique, en mettant son quatuor d'attaque en place. Moi, je trouve que ça a déséquilibré un petit peu cette équipe, et notamment sur l'aspect défensif. Donc voilà, je suis très très curieux de savoir ce que ça va donner contre des Sénégalais qui, je les répète encore une fois, mais ont vu le match contre la Côte d'Ivoire et savent exactement ce qu'il faut faire pour contrer ces Français.
Après, ce qui est bien, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup beaucoup de questionnements, je vais pas appeler ça des critiques, mais beaucoup de questionnements avant cette Coupe du Monde, et donc que ce soit Kylian Mbappé ou que ce soit le sélectionneur Didier Deschamps ou bien sûr cette équipe de France, personne pourra être surpris ou personne ne connaît pas les problématiques. Voilà, les problématiques, elles ont été bien expliquées, je pense qu'elles ont été bien argumentées. On peut être d'accord ou pas d'accord, en tout cas certes ça a été soulevé et je pense que c'est revenu à leurs oreilles. Enfin Flo, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je pense qu'ils savent que il y a des questionnements sur pas mal de choses et en tout cas ils en sont conscients. Il va falloir répondre sur le terrain, notamment sur ces problématiques.
On en revient, Kevin, souvent au même débat, c'est que c'est quand même paradoxal, hein, et c'est une évidence que je vais rappeler, c'est que Didier Deschamps, il a surtout été critiqué pour son jeu et sa philosophie un peu défensive, et là il met quatre attaquants et nous on s'engouffre dans la brèche et on se pose les questions vis-à-vis justement des risques que pourrait prendre Deschamps. Ok, mais lui il a l'air de vouloir assumer ce déséquilibre quelque part. Malgré tout, il va essayer, notamment avec ses latéraux en défense, de leur demander peut-être d'être plus prudent, de moins prendre le couloir. Il va vouloir insister sur le volume de jeu, on l'a dit, au milieu de terrain. Il a rappelé depuis le début à ses quatre attaquants et même à Kylian Mbappé que c'est non négociable. Jouer à quatre, ok, mais il faut tout le monde défendre. Donc en fait, voilà, lui,
Mais la vraie question, c'est est-ce qu'il sait faire?
Il sait faire quoi, c'est-à-dire
est-ce qu'il sait faire jouer son équipe? Est-ce qu'il sait être un entraîneur offensif? C'est pas grave, fais seulement ce que tu sais faire. Mais bah, il te reste plus que deux semaines.
Enfin, donc pour toi, il se renie en fait.
Bah pour moi, en tout cas, il essaye de faire un truc qu'il ne maîtrise pas.
Après, c'est certain. Après, il faut être aussi honnête. On l'a tant critiqué justement par rapport à son pragmatisme, quand on regardait l'équipe de France.
Non, pas juste une composition, animation.
Moi, ce que j'ai envie de voir, enfin ce que j'aurais envie de savoir, on le saura jamais. C'est si jamais ce n'était pas la dernière compétition de Deschamps, est-ce que Deschamps aurait joué de cette manière? Parce qu'on parle souvent du matos, mais le matos, les joueurs que t'as actuellement, tu peux malgré tout mettre Désiré Doué en tant que numéro 8 et passer en 4-3-3, et on sait que c'est le schéma préférentiel de Didier Deschamps. Le problème, c'est qu'en mettant ces cas sur quatuor, finalement personne joue à son poste, et moi c'est ça qui m'inquiète un petit peu. C'est ça qui m'ennuie. Didier Deschamps, ouais,
vas-y Maxime, finis.
Ouais, non, j'ai le sentiment que Didier Deschamps, il veut un petit peu sortir de cette de ses 14 ans en équipe de France, un petit peu en tant que j'ai envie de parler du football champagne, envie de montrer à tout le monde, oui, je suis un entraîneur qui sait aussi bien faire jouer ses équipes. Et alors, je sais pas si c'est pour se replacer derrière, parce que j'imagine que Didier Deschamps n'a pas besoin de faire une dernière grande compétition, en l'occurrence la Coupe du Monde, pour retrouver un club ou une équipe nationale, peu importe. Mais c'est vrai que je suis très très surpris d'avoir un Didier Deschamps qui se renie presque, alors qu'on sait qu'on l'a critiqué pendant X et X années. Et je terminerai mon analyse en disant qu'il peut malgré tout mettre tous les joueurs sur le terrain, mais juste en changeant un petit peu son animation, tu l'as dit, Kevin, en revenant à quelque chose de plus simple, 4-3-3, avec un Désiré Doué qui potentiellement pourrait jouer numéro 8, ou tu peux même faire sortir un Désiré Doué et faire rentrer un Manu Koné pour avoir un milieu défensif un petit peu plus robuste et un petit peu dense en équipe de France. Voilà, j'attends de voir ce que ça va donner, et surtout, c'était la dernière question que je me posais, c'est est-ce que Didier Deschamps est prêt à repasser à son schéma préférentiel si jamais ça ne fonctionnait pas
sur
le premier match contre le Sénégal?
Que je disais que l'avis de Kevin, il était pertinent dans ce sens-là, c'est que le début de compétition et le premier match, ça va donner le ton, parce que Deschamps, s'il y a bien quelque chose qu'on peut lui attribuer, c'est qu'il est capable, en cours de Coupe du Monde ou en cours d'Euro, il l'a déjà fait, de tout changer. Il est tellement compétiteur, voilà, il veut aller au bout, et si ça marche pas, si ça fonctionne pas, si sur un match officiel de Coupe du Monde contre le Sénégal, même éventuellement avec une petite victoire, mais il sent que c'est pas maîtrisé, je pense que ça peut être le déclic supplémentaire qui le ferait éventuellement changer et assumer le fait de revenir à un système peut-être plus pragmatique. Donc c'est pour ça que déjà tout de suite le 16 juin on aura vraiment des éléments de réponse, et je pense honnêtement, et pour avoir pu aussi côtoyer les Bleus là depuis leur arrivée, moi j'ai le sentiment qu'ils en sont conscients, les joueurs, et qu'ils savent que Deschamps prend quelque part un petit risque et qu'ils veulent le lui rendre, et donc ils vont être investis de cette mission. Et honnêtement, au-delà du fait que il y a ce quatuor offensif, beaucoup parlent de la dernière compétition pour Didier Deschamps, et à mon avis il y aura quand même un supplément d'âme dans cette équipe de France pour rendre aux sélectionneurs ce qu'il leur a apporté. Tout n'a pas été parfait, tout n'a pas été rose dans certaines compétitions, mais malgré tout il y a une osmose, et les joueurs, ils vont avoir envie de rendre à Deschamps les risques qu'il a pris ou la confiance qu'il leur a donnée. C'est le sentiment qu'on a.
Tu le sens vraiment, ça, Flo? Parce que c'est vrai que c'est intéressant, oui. Parce que nous, on en parle beaucoup, et à chaque fois qu'il y a des questions par rapport à ça, c'est vrai que Didier Deschamps, il botte un peu en touche, il a pas envie de trop s'arrêter sur le fait que c'est sa dernière compétition avec les Bleus, et puis on sait que c'est quand même un homme qui a fait des choix et qui, parfois, a écarté des joueurs alors qu'il avait des relations très fortes avec certains. On se souvient, hein, par le passé, il y a eu Olivier Giroud pendant un moment, il y a eu d'autres choix, parfois, avec des joueurs qui ont expliqué du jour au lendemain, ils ont plus été appelés, comme Koscielny, ils ont pas compris. Là, t'as vraiment l'impression que les joueurs, ils sont entre guillemets un peu redevables envers Didier, et ils veulent briller aussi pour la dernière de Deschamps et de Guy Stéphan.
Bah, je pense qu'il reste quand même très apprécié. C'est pas un hasard si que si au final l'équipe de France n'évolue pas énormément et qu'il y a des joueurs qui parfois vivent des saisons un peu moyennes, un peu compliquées, mais Deschamps continue d'avoir confiance en eux. Et donc avec un gros noyau de joueurs, il s'est créé quand même quelque chose de fort, et c'est vrai que il y a encore mais d'ailleurs quand on pose parfois la question à des joueurs sur les motivations de cette Coupe du Monde, une Coupe du Monde en soi, t'as même pas besoin normalement de d'énumérer les ingrédients qui font que t'as envie de la gagner. Une Coupe du Monde, c'est une Coupe du Monde, c'est un rêve d'enfance, c'est la plus belle compétition, etc. Mais beaucoup, sans qu'on leur pose la question, vont sur ce terrain de dire, et puis c'est la dernière aventure du coach, enfin du sélectionneur, donc on y pense, et ça nous met encore plus dans l'envie, dans la motivation de faire quelque chose. Donc depuis quelques mois, même avant d'ailleurs la Coupe du Monde et pendant les qualifications, etc., c'était un sujet qui revenait. Donc je pense que ça peut compter et ça peut peser.
Il y a un invité exceptionnel ce vendredi dans Rotten sans flamme, c'est Paul Pogba. Justement, Paul Pogba, c'était un joueur très important de Didier Deschamps. Ils ont gardé une belle relation. Il est actuellement à Los Angeles. Il s'est confié par rapport à l'équipe de France. Il y a une question. Est-ce que les Bleus de 2018 étaient meilleurs que ceux de 2026? La réponse du milieu de terrain.
Est-ce que cette génération, sur le papier, trouve qu'elle est meilleure que celle de 2018?
Oui. Le meilleur joueur du championnat allemand, meilleur joueur du championnat français, meilleur buteur du championnat espagnol. Aujourd'hui, non, c'est sûr que je pense que au niveau papier, ils sont beaucoup plus forts. Après, je sais pas, je pourrais pas dire au niveau groupe, parce que ça, c'est très, très, très important.
Ouais.
Dans des compétitions comme ça. C'est le groupe qui joue et aujourd'hui, bon, ils ont montré qu'ils pouvaient très, très bien jouer ensemble aussi. Mmh. Et au niveau des changements, quand tu enlèves un joueur, Surtout devant, attention.
Paul Pogba, donc, écoute, qui est actuellement pas du tout en direct de Los Angeles. Ah ouais. Donc pour toi, 2018, c'était meilleur que 2026?
En fait, pour moi, il dit deux choses qui sont complètement antinomiques dans le foot. Il dit, sur le papier, ils sont meilleurs. Non. En fait, une somme d'individualité ne fera jamais une meilleure équipe qu'un collectif qui a été soudé, qui a été jusqu'au
bout. C'est la raison pour laquelle il dit sur le papier.
Oui, mais sur le papier, ça veut rien dire, le papier.
Bah, ça veut dire que quand le papier, il y a 11 individuellement, les mecs dans quel club ils évoluent.
Moi, je suis pas d'accord. Raphaël Varane, je vois pas.
À part Rafa Varane, pour moi, c'est supérieur sur toutes les lignes.
Bah non.
Griezmann, il n'y a pas de Griezmann aujourd'hui.
Pour moi, défensivement, à gauche, Lucas est meilleur que son frère.
Ouais, moi, à ce moment-là,
tu préférais voir Lucas Hernandez plutôt que Théo Hernandez?
Aujourd'hui, 2018, à l'instant T, 2018, Lucas Hernandez, il est dans son prime. Varane, il est dans son prime. Umtiti, il a une petite gêne, mais il est quand même dans son prime. En tout cas, c'est son meilleur niveau possible.
Donc, tu rappelles les conditions de 2018 qui nous ont
aujourd'hui
la
Paul Pogba, il y en avait peut-être eu qu'un dans le football français, Paul Pogba, dans son prime. N'Golo Kanté, il n'y en a pas eu beaucoup dans le football français. Il y en a eu quelques-uns, des Makelele, des Deschamps, ok, mais dans son prime. Et aujourd'hui,
Vieira, dans les milieux de terrain, c'était très fort.
Oui, non, mais je veux dire, entre 2018 et 2026, il y a pas d'équivalent. Griezmann dans son prime, Giroud, même s'il n'a pas marqué, dans son prime, dans ce qu'il apporte à l'équipe. Notre ami Kylian à droite, monstrueux, phénoménal, pour moi meilleur qu'en 2022, en 2018. Donc non, je suis pas du tout d'accord.
Il y avait déjà en 2018.
Moi, j'entends, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que défensivement,
quand tu regardes poste par poste,
avait peut-être un peu plus de certitude.
Hugo Lloris dans son prime, même si je préfère Mike Maignan, mais dans son prime, Hugo Lloris.
De toute façon, tu gagnes pas une Coupe du Monde avec des joueurs moyens. L'équipe de France en 2018 était exceptionnelle. Maintenant, Benjamin Pavard en 2018, tu sais pas vraiment à quoi t'attendre.
Mais la Koundé non plus.
Ouais, après t'as des certitudes. Tu sais que défensivement, c'est quelqu'un qui tient quand même la route. Moi, où j'ai envie de mettre en avant, c'est évidemment, c'est la ligne d'attaque offensive. Aujourd'hui, quand tu regardes la saison de Michael Olise, quand tu regardes la saison de Dembélé, bon, même s'il y a eu les blessures, Ballon d'Or en titre, Kylian Mbappé, il faut quand même pas oublier que c'est avec son record, c'est lui qui a marqué.
Mais il était là aussi
énormément.
En 2018.
Oui, je sais, mais moi on parle uniquement sur le papier. Après, il y a la deuxième analyse où est-ce qu'on va parler en termes d'équipe. Et là, je suis d'accord avec toi. Pour moi, 2018 était meilleure que celle de 2026. Je trouve que cette équipe, elle était formée, en tout cas, elle était créée pour bien jouer ensemble avec un Olivier Giroud qui attirait les défenseurs.
Avec le système
pour
qui convient à Deschamps.
Exactement. Avec un Olivier Giroud, par exemple, qui embêtait les défenses pour laisser énormément d'espace pour derrière Griezmann et surtout Kylian Mbappé avec ce trio défensif, Matuidi, Pogba et N'Golo Kanté qui faisaient un travail phénoménal. Et puis derrière, t'avais Varane et Sam Umtiti qui fonctionnaient très très bien. Donc là, vraiment d'un point de vue collectif, oui, cette équipe de France 2018 pour moi est meilleure que celle de 2026. Quoi qu'on n'ait jamais à l'abri d'avoir une équipe de France qui va se révéler pendant cette tournoi, parce que n'oublions pas qu'en 2018, c'est quand même poussif sur le début. Donc ça peut être la même chose sur 2026. Mais c'est vrai qu'intrinsèquement, individuellement parlant, t'as le meilleur joueur de Bundesliga, t'as le meilleur joueur de Ligue 1, t'as le meilleur, je te parle aujourd'hui, t'as un des meilleurs joueurs du monde, Kylian Mbappé, même si c'est vrai qu'il est un petit peu dans le creux actuellement, faut pas oublier qu'individuellement, il a quand même fait une très belle saison avec énormément de buts. T'as Tchouaméni qui quand même fonctionne bien au Real Madrid. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, t'as quand même des certitudes. Pour moi, t'as Saliba qui est le meilleur défenseur central actuellement au monde. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je comprends. En tout cas, les deux équipes sont très, très proches.
Pour moi, il fait de la politique. Pour moi, il fait de la politique.
Bien sûr,
c'est un truc qui est politique. Bon, on va pas dire qu'on était meilleur qu'eux. C'est méga. Je leur souhaite de la gagner. Donc, on va dire que sur le papier, ils sont meilleurs. Non. Moi, je trouve pas.
Flo, on va continuer ce débat parce que j'ai envie d'avoir ton avis. Parce que moi, je trouve que les garçons, ils oublient quand même un petit peu, notamment la phase de groupe de 2018. Mais c'est la pause on va en reparler. Valentin Jamin, c'est la pause actuellement donc entre la Tchéquie et la Corée du Sud. Pas de but.
0-0 à la mi-temps, mais maîtrise et domination globale coréenne. 8 tirs à 2 notamment, et Heung-Min Son, un des chouchous de Kevin, qui a raté quelques occasions. Une frappe à l'entrée de la surface au-dessus, une tentative à gauche de la surface à côté, et un centre en retrait qui a été contré. Actif le capitaine, mais donc pas encore buteur, mais ils auraient presque mérité d'ouvrir la marque. 0-0 à la pause entre la Corée du Sud et la République tchèque.
Merci beaucoup Flo, t'es avec nous évidemment, tu suis l'équipe de France. Est-ce que les garçons, ils n'enjolivent pas un petit peu la réalité de 2018? Parce que la phase de groupe, elle est poussive. L'Australie, tu galères pour les battre. Le Pérou, score minimal. Et après, tu fais match nul face au Danemark. À l'issue de la phase de groupe, tu te dis pas la deuxième étoile, elle est pour nous.
Oui, d'ailleurs, il y avait eu un coup de gueule après France-Australie de la part de Didier Deschamps.
Et ça, des joueurs qui avaient sauté, comme d'ailleurs Dembélé.
Il avait changé d'ailleurs sa tactique après ce match-là.
Exactement. Donc il y avait eu, oui, tu l'as dit, un 2-1 contre l'Australie pour le rappeler, un petit 1-0 contre le Pérou et ce match nul contre le Danemark 0-0. Finalement, la Coupe du Monde, elle s'est lancée avec ce match un peu fou contre l'Argentine en huitième de finale et puis un Kylian Mbappé qui volait sur cette rencontre-là. Et après, on a eu le sentiment que une autre compétition commençait. Donc, mais après, c'est quand même une équipe qui a un ami 4 à la Croatie. Qui a été très solide aussi, donc
mais c'est le sentiment quand même que pendant la compétition comme en 98 aussi.
Mais Deschamps, il se construit pendant les compétitions de toute façon. Didier Deschamps, je pense qu'on va avoir peut-être un sélectionneur qui va encore être possédé sur ces compétitions-là, parce que il peut avoir le sentiment des fois sur des compétitions, et on l'a senti lors du dernier Euro, il était contrarié, il sentait que Kylian Mbappé, le masque, des joueurs qui peut-être n'étaient pas physiquement comme il l'aurait souhaité. On a senti très tôt que cette compétition elle commençait mal. Mais Didier Deschamps, si il voit que ça tourne bien, si ça monte en puissance, on a quand même le stéréotype du sélectionneur qui est ultra compétiteur et qui lui aussi se révèle parfois dans des euros ou des coupes du monde. Donc on peut imaginer, et c'est ce qu'on souhaite aux Bleus, parce que même si on en fait des débats, si on est critique, si on se pose des questions, que cette Coupe du Monde avec Deschamps et cet esprit-là de gagne qui l'habite, quelque part ce soit pour lui aussi et pour cette dernière aventure, cette dernière danse pour lui, encore une réussite. Enfin, je pense que lui, il croit plus que jamais encore. Donc, ça, on peut pas le lui enlever.
C'est évident qu'il y croit. De toute façon, Didier Deschamps, il est animé par ça et par l'idée de laisser l'équipe de France au plus haut. Merci beaucoup Flo d'avoir été avec nous. Allez, évidemment, on va continuer les débats tout au long de ces nuits de la Coupe du Monde, vous le savez, avec RMC qui est en direct des États-Unis pour vous faire vivre ce mondial absolument exceptionnel. RMC, radio officielle du mondial du 11 juin. Ça a débuté aujourd'hui jusqu'au 19 juillet. Tout de suite, je donne la main à Héloïse Dangean. Salut Héloïse.
Salut Karine, salut tout le monde. Et oui, le morning, ça démarre dans deux minutes sur RMC. On va évidemment continuer de vivre ce match Corée du Sud-Tchéquie en fil rouge avec notre envoyé spécial Valentin Jamin. On fera un point toutes les 10 minutes avec lui. Et pour vivre la rencontre en intégralité, rendez-vous sur la radio digitale 100% Coupe du Monde sur l'appli RMC. À tout de suite.
RMC, l'after foot. Intégrale Coupe du Monde.